Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Petit à petit, on est rentré dans une société de consommation. On consomme rapide, facile, confortable. Une climatisation, on met ça parce que c'est confortable. Alors, il y a des ours qui meurent à l'autre bout de la planète, il y a les glaciers qui fondent, mais on s'en fout, on est confortable. Hein ? On est en train, quelque part, de scier la branche sur laquelle on est confortablement assis. Mais on s'en fout, on est confortable.
Il y aurait mille et une façons de vous introduire cet épisode qui compte autant pour moi. Et vous partager les pensées de Conrad, c'est à la fois vous introduire dans mon intimité et aussi prendre le risque que cela ne vous parle pas du tout. Alors vous introduire dans mon intimité parce que Conrad a forgé nombreuses de mes réflexions et orienté beaucoup de mes prises de recul. Et prendre le risque que cela ne vous parle pas du tout parce que les mots que vous vous apprêtez à entendre, ils sont d'une profondeur et d'une sincérité assez déconcertantes. Et pourtant, ces mots sont tellement riches, essentiels et surtout indispensables pour construire la société de demain. Alors, ces fameuses étiquettes que l'on nous impose dès la plus tendre enfance, Conrad les a délaissées très jeune. Il quitte le système scolaire très tôt et apprend au fil de son chemin à écouter et à faire confiance à ses connaissances intérieures. Il développe ses perceptions extrasensorielles comme la médiumnité, la clairvoyance et la télépathie. Après avoir vécu des états d'éveil à plusieurs reprises dans sa vie, il a renforcé sa détermination à œuvrer pour la Terre et l'humanité. Et depuis plus de 10 ans, Conrad se dédie à enseigner une vérité profonde, une vérité qui déroute et qui dérange parfois. Dans cet épisode, Conrad nous offre un échange profondément sincère et transformateur, avec de réelles clés pour changer le monde de demain. Alors on a parlé de ce qui a mené notre espèce à s'éloigner de la nature, de l'envers du décor et de la fabrication de nos téléphones, du sens profond de la vie et de ces petites choses face auxquelles je n'ai pas vraiment de mots à poser. Pour la première fois aussi, je ne me suis pas retenue par les minutes qui filent et j'ai rallumé le micro à la fin de cet épisode pour vous enregistrer une deuxième partie de notre conversation. Bonjour Conrad.
Bonjour Victoria.
Je suis ravie de pouvoir te donner la parole aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Je suis très honorée de pouvoir terminer cette saison d'interview avec toi. Mmh. Alors, j'ai plein de questions à te poser. Et pour une fois, j'ai pas envie de me limiter par le temps. Mmh. Donc, si ça dépasse 30 minutes, on fera deux parties. Et je vais te poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit.
Tu peux.
Donc, pour commencer, on va surtout parler de toi, Conrad. Ces dernières années, il s'est passé beaucoup de choses, d'un point de vue expérimental et émotionnel pour toi. Tu t'es détaché de toute étiquette et de toute identification, on va en parler. Mmh. Mais aujourd'hui, après tout ce cheminement, comment tu pourrais te présenter à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ?
Pour me présenter, sans me mettre d'étiquette, je dirais que je ne suis rien ni personne.
Ça commence fort.
Ça déroute un petit peu parce qu'on essaye toujours de me caser dans une étiquette, me donner un rôle ou m'emprisonner dans quelque chose. Mais non, j'ai vécu toute ma vie en ayant diverses phases, en ayant diverses expériences. Et une des plus fortes expériences a été celle où je me suis isolé 10 mois dans les montagnes, donc là où on est aujourd'hui, où je te reçois. Et là, toute identification, toute identité, toute étiquette s'est écroulée. Vraiment cette sensation de ne plus être rien ni personne, mais en même temps appartenir à quelque chose de plus vaste, sans s'identifier à quoi que ce soit, sans se limiter. Sans se limiter à une appartenance, à une identité, à une famille, à une tribu, à une religion, à quoi que ce soit. Alors c'est vrai que ça déroute un petit peu, quand tu vis cette expérience-là, elle déroute, mais tellement essentielle, parce qu'on a tendance, parmi les modes d'éducation, à vouloir s'identifier, à vouloir se construire une identité, que ce soit une identité professionnelle, sociale, familiale, spirituelle même. Et toutes ces formes d'identité, elles limitent l'être humain. Et quand tu vis ce genre de choses sans le choisir, parce que je n'ai pas choisi cette expérience-là, elle est venue à moi, cette désidentification totale, quand je me suis isolé pendant 10 mois, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas choisi ni prévu dans ma vie.
Comment c'est arrivé alors? Tu as ressenti le sentiment qu'il fallait que tu le fasses, ou qu'est-ce qui t'a amené à le faire si tu l'as pas choisi?
C'est arrivé suite à un gros choc dans ma vie. Un choc, tu vois, un genre de choc qui te met les deux genoux à terre et que tu ne choisis pas. Dans ce choc-là, je me suis retrouvé isolé, malgré moi, dans ces montagnes. Et j'ai décidé de vivre cette solitude et cet isolement complètement jusqu'au bout. Et mettre tout de côté, toutes mes convictions de côté, mes croyances, mettre tout ce que à quoi je m'attachais, de le mettre de côté aussi. Et j'ai vécu ça, je l'ai laissé vivre en moi pleinement. Et au final, c'est libérateur. Parce qu'on se rend compte qu'on est toujours attaché à une étiquette, à un rôle, à une identité, à une croyance, à une appartenance. Et au final, vivre cette expérience-là, se dépouiller de tout, c'est riche en libération. Et ça rend beaucoup plus humble. C'est quelque chose qui t'invite à intégrer pleinement en toi l'humilité. Et l'humilité, à mon sens, c'est l'un des plus grands degrés de spiritualité. La spiritualité, c'est pas d'être quelque chose, d'être quelqu'un, d'être ceci ou cela, d'être enseignant, d'être thérapeute, ou d'être un être éveillé, ou d'être dans le cœur, ou d'être dans l'amour. La spiritualité, avant tout, c'est l'humilité, à oser dire « je ne suis rien ».
Tu parles de ces étiquettes dont tu t'es débarrassé petit à petit. Mmh. Quelles sont-elles, ces étiquettes, et comment on nous les inculque?
Alors, moi, pour ma part, les étiquettes liées à l'éducation, je m'en suis débarrassé depuis très longtemps. Parce que quand j'étais enfant, je voyais que ces modes d'éducation ne correspondaient pas à la vérité. C'est-à-dire que je voyais que ça créait de la dualité, de la division, que ça créait des formes de compétitivité, de productivité de soi. Il fallait avoir des résultats, et d'ailleurs on te le dit quand tu es à l'école, on te dit si tu ne réussis pas à l'école, tu auras pas une bonne vie. Hein? Il faut que tu aies une bonne situation plus tard. Moi je trouvais que c'était faussé tout ça, c'était de l'illusion. Donc ces étiquettes liées à l'éducation, je m'en suis débarrassé depuis très longtemps, j'ai quitté l'école très tôt pour suivre ma propre vérité, pour écouter ce que ma vérité me disait. Par contre, quand je parle d'étiquettes, effectivement, j'ai été pendant des années enseignant d'une certaine manière, et j'avais un petit peu ce rôle d'enseignant où j'enseignais la communication par télépathie, la communication avec les animaux, l'intuition, toutes nos capacités extrasensorielles, et j'étais très lié à certains peuples anciens, très lié au peuple amérindien, et même ça, tout ça s'est écroulé complètement. Je ne dis pas que je ne suis plus lié à ça, mais je suis lié à quelque chose de plus large. Je me sens lié à quelque chose d'immense qui n'a plus de limite, en fait. Et toutes ces identités-là, toutes ces étiquettes-là, elles s'écroulent quand tu vis vraiment un retour à toi, un retour à ta vérité. Alors, très peu d'humains peuvent le vivre, parce que quand tu vis dans la société, si tu veux, tu es toujours confronté à l'extérieur, tu es toujours identifié à l'extérieur, identifié à tes collègues, à tes camarades, à tes amis, à ta relation sentimentale, tu peux être aussi en comparaison avec des phénomènes de mode comme les chanteurs, etc. Tu es en comparaison avec les autres qui réussissent plus ou moins bien, ceux qui ont des meilleures notes, ceux qui ont une meilleure situation. Là, quand tu es dans cette forme de solitude, où tu extirpes de la société, tu ne vois plus la société pendant 10 mois, là, tu es juste face à toi-même. Il n'y a plus de comparatif possible. C'est juste toi avec toi.
Et donc, pour revenir à soi, est-ce que pour toi, on serait obligé de s'extirper de la société, de se retrouver seul pendant une longue durée? Ou est-ce qu'il y aurait finalement d'autres manières de pouvoir revenir à soi?
Alors, il y a une multitude de manières. Mais pour revenir vraiment à soi, il faut, je dirais, il faut ne plus s'identifier. Ne plus se comparer. Pour moi, l'identification et la comparaison sont deux poisons toxiques de l'humanité. Tu vois? C'est quelque chose qui ne te fait pas connaître toi. Tu te connais en comparaison et en identification à quelque chose d'extérieur, à ce que les autres attendent de toi, à ce que tu crois que les autres attendent de toi aussi. Mais, pour revenir à la solitude, à mon sens, elle est primordiale dans le cheminement d'un homme, d'un humain. On ne peut pas y échapper. Si tu veux vraiment cheminer vers toi-même profondément, la solitude est essentielle, je dirais.
C'est très difficile aujourd'hui de se retrouver seul. On est tout le temps dans cette frénésie, dans cette course, justement, voilà, la productivité, comme tu le disais, toujours vouloir en faire plus et faire mieux que son voisin et aller plus vite que lui et cocher les cases rapidement parce que sinon, le temps passe.
C'est ça, entre autres. Et puis, il y a aussi le fait que l'être humain a du mal à être seul aujourd'hui. Il y a un vide à combler. Alors vite, on prend Facebook, on prend WhatsApp, on prend le téléphone, on appelle les amis. Dès qu'il y a un moment de solitude, il y a une espèce de panique intérieure en disant « je n'existe plus ». Si je suis seul, je n'existe plus. Alors que non, au contraire, c'est dans le silence intérieur qu'on existe. Le silence intérieur nous révèle notre propre vérité. Et j'invite chacun d'ailleurs à expérimenter ce silence et cette solitude, pas juste une journée ou une semaine, mais l'expérimenter au moins pendant un mois, de dire je me coupe, j'ose couper les réseaux sociaux, couper les amis pendant un moment, et je suis juste face à moi-même. Je pense que c'est une étape primordial et obligatoire pour le cheminement vers soi. On ne peut pas passer au-delà de ça si on veut vraiment cheminer profondément et surtout écouter ce que l'on est. Parce que tant qu'on est identifié à l'extérieur, aux compagnons, à la compagne, aux amis, à la société, on n'est pas vraiment soi, puisqu'on a toujours une référence extérieure. Donc il y a toujours une espèce de calque qui se fait, même dans une relation sentimentale. Tu te calques plus ou moins à l'autre et tu ne te connais que à travers l'autre. Et la société, elle nous invite à nous connaître à travers l'autre, à travers les professeurs qui vont te dire tu as eu une mauvaise note, à travers les parents qui vont te dire si tu ne réussis pas à l'école, tu auras une mauvaise situation plus tard. Mais la solitude permet de ne plus se calquer à cet extérieur là et vraiment de dire qui je suis moi. Moi, sans l'extérieur, sans identification, sans comparaison, qui je suis, quelle est ma vérité, quel chemin je dois suivre, quelles sont mes aspirations profondes, qu'est-ce qui vibre pour moi profondément. C'est ça aussi la solitude. C'est pas, on a associé la solitude à quelque chose de très négatif, douloureux. Au contraire, c'est quelque chose de très profond, la solitude. Et aujourd'hui, la société invite tout le monde à vivre en surface. On vit dans un monde matériel, accroché à la matière, dans une forme d'individualisme, dans une forme de dépendance aussi. Alors que cette solitude-là nous invite à se décrocher de ça et à savoir vraiment faire connaissance avec soi, sans aucune interaction avec l'extérieur. C'est primordial.
Tu dis que très tôt, petit, tu as eu un regard particulier sur la vie et sur l'humanité. Mmh. En quoi tu as ressenti que ton regard était particulier et différent?
Ben, déjà, quand j'avais 3 ans, je disais à ma famille, je sais que je suis venu pour aider la terre et les gens. 3 ans, j'avais cette conviction-là. Je savais que c'était quelque chose de profond. Et pourquoi j'ai eu ce regard particulier? Parce que déjà, très tôt, je voyais la dualité chez l'être humain. Toutes ces formes de dualité, ces formes de compétition, quand j'étais même à l'école, je voyais que ça allait pas, je voyais qu'il y avait des camarades de classe qui souffraient parce que leurs parents n'étaient pas contents d'eux parce qu'ils avaient eu des mauvaises notes, je voyais que ça faisait souffrir de pas avoir de bonnes notes, de pas réussir, je me dis mais c'est pas la vérité, si on apprend quelque chose, c'est fait pour nous faire du bien, c'est pas fait pour nous faire souffrir, c'est pas fait pour nous mettre en dualité, c'est pas fait pour nous mettre en compétition avec l'autre, au contraire. Je comprenais pas pourquoi les formes d'éducation nous inculquaient pas la fraternité, l'unité, l'amour, la compassion, l'altruisme. Et je sentais que j'avais un regard différent parce que je m'entendais absolument pas avec les enfants de mon âge. J'étais extérieur parce que je trouvais ça très superficiel, très banal. Et je voyais combien l'être humain vivait les choses en surface. Et même avec les adultes, j'observais les adultes, la famille, etc. Et je voyais à quel point c'était un monde très duel. Et c'est pour ça que je portais ce regard particulier. J'avais la sensation de ne pas du tout m'identifier à cette humanité, en fait. J'avais l'impression d'être vraiment devenir d'un autre monde, si je puis dire.
Du coup, tu as quitté le système scolaire très tôt, parce que ça ne résonnait pas en toi.
C'est ça.
À quel âge tu décides d'arrêter l'école? Et tes parents, dans tout ça, comment ils ont réagi? Ils n'ont pas essayé de te retenir à l'école?
Alors, mes parents, eux, ont toujours été très intrigués par ce que j'étais. Je me souviens des paroles de ma mère, elle me dit « Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es ». Ma mère me disait ça, parce qu'elle s'apercevait que je n'étais pas comme tout le monde. Et quand j'ai décidé de quitter l'école, ils m'ont dit « D'accord, fais ton chemin, fais ton expérience, mais si tu veux quitter l'école, tu dois être autonome ».
Tu avais quel âge?
C'était très tôt. Je ne dirais pas l'âge à laquelle j'ai quitté, mais j'ai quitté très tôt, parce que je n'avais pas le besoin ni la nécessité qu'on m'inculque ce qui est inculqué à l'école. Je trouvais que ça ne servait pas à grand-chose. Et mes parents ne m'ont pas interdit quoi que ce soit. Ils m'ont dit « D'accord, tu veux faire ça, mais il faut que tu sois autonome, donc il faut que tu gagnes de l'argent. Il faut que tu puisses commencer à gagner de l'argent si tu veux te payer des vêtements, tout ça, puisque tu ne vas plus à l'école. » Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à travailler très tôt, très très tôt, et pour pouvoir être autonome, et tout en continuant à écouter ma vérité, à faire mon chemin, en observant la société, en observant l'être humain. Mes parents ne m'ont pas jugé de quitter l'école très tôt, et aujourd'hui j'en suis là où j'en suis, grâce à ça justement en grande partie, parce que j'ai eu l'immense chance que mes parents puissent me laisser faire ce chemin. Parce que je sais que c'est pas évident pour des parents quand on entend un enfant dire « je veux faire mon chemin, je veux quitter l'école ».
Il faut surtout avoir une confiance immense en soi déjà aussi jeune pour oser se dire « j'écoute pas mes parents, j'écoute pas le système éducatif et je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle, je suis ça ». Très jeune, c'est tellement... Enfin déjà, en tant que... Là, les auditeurs ont principalement autour de 20-25 ans, c'est déjà dur d'avoir confiance en soi. Alors plus jeune, c'est... Fantastique.
Ouais, j'ai toujours écouté ma vérité. D'ailleurs, ma famille me disait « tu étais têtu, mais tu t'écoutes, c'est bien ». Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait tout le long de ma vie, et puis aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Alors, dans ce que j'enseigne, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai jamais suivi d'enseignement, j'ai jamais suivi d'enseignant, j'ai jamais lu un livre. Et ce que j'enseigne, ça vient d'une vérité intérieure, ça vient d'une, comme je t'en faisais part, une sorte de mémoire originelle qui est là et qui est inépuisable quelque part. Et j'ai pas eu besoin de me former à quoi que ce soit, de suivre un enseignant ou une forme d'éducation spécifique. Mais j'écoute ma vérité en tout cas.
Et alors comment tu l'écoutes cette vérité? Est-ce que tu passes des moments en nature? Est-ce que t'as des petits... Je sais pas, des petites habitudes, des petits rituels qui font que tu vas cultiver plus ou moins cette curiosité et cette intuition.
Alors, le plus grand rituel que j'ai, si on peut parler de rituel, c'est que je vis ma vie en pleine conscience à chaque instant. C'est-à-dire que je vis cette vie dans les moments de présence à moi-même, dans la pleine présence à moi-même. Cet état que moi je qualifie de méditatif, c'est tout a de l'importance. Je vis la pleine conscience de chaque instant, quand je marche, quand je pense, quand des choses me traversent, mais aussi quand je fais la vaisselle, quand je prends ma douche, quand je cuisine, quand je verbalise quelque chose vers l'extérieur. Je vis tout en pleine conscience, c'est-à-dire que je suis vraiment pleinement présent à ma propre présence, dans l'instant présent. Et c'est ça qui... si je puis dire, qui est mon rituel quotidien, mais je le fais sans réfléchir à le faire. C'est spontané, c'est comme ça. Je vis ma vie de cette manière-là. Et c'est ça qui t'invite à grandir aussi. Tu vois, d'être plutôt que de se projeter dans diverses éventualités de peut-être que demain je vais mourir, je vais pas avoir d'argent, je vais pas avoir de travail, je vais pas avoir ceci, je vais pas avoir cela, si je ne fais pas ça aujourd'hui, je vis ma vie vraiment telle que je la ressens et dans l'instant présent.
Et la nature, quel rôle elle a joué dans ton éducation, dans ton évolution?
Je dirais que la nature m'a appris ce que l'être humain ne m'a pas appris sur les bancs d'école. La nature nous apprend la vérité. Il n'y a pas plus vrai que ça. Les saisons t'enseignent énormément de choses. Les animaux t'enseignent des choses. Tout enseigne une forme de d'impermanence, de non-attachement, de solidarité. J'ai observé des tas d'animaux. Ils m'ont appris des tas de choses bien plus grandes que l'être humain. Tu vois, sur la solidarité, sur l'observation, sur l'instinct, sur beaucoup de choses. Les arbres m'ont enseigné aussi. Les arbres m'ont enseigné la permanence dans l'impermanence, que rien ne meurt en vérité. Tu vois, quand on voit les arbres se dépouiller à l'automne, on pourrait penser que tout est mort, mais rien ne meurt. À ce moment-là, les arbres renforcent leurs racines, ce qui est profond, ce qui ne se voit pas. Et c'est des moments d'introspection aussi qu'on pourrait prendre exemple pour nous en tant qu'humains. Et on voit que même si tout paraît mort à l'extérieur, au printemps, tout ressort, tout refleurit, tout redonne des fruits. Il y a quelque chose de magnifique qui se produit. La nature m'a enseigné des tas et des tas de choses, vraiment. Et des choses qui font écho à ce que je suis. Choses qu'on ne t'apprend pas forcément sur les bancs d'école. Comme par exemple l'amour, la compassion. Tu peux être en amour et en contemplation devant un animal, devant un coucher de soleil. Dans les formes d'éducation, on ne t'apprend pas l'amour, ni la contemplation, la compassion, ni l'altruisme. On t'apprend à réussir. On t'apprend à mettre en évidence la personnalité, tu vois, à être dans la réalisation de ta personnalité. Alors que l'idée d'un chemin humain, c'est d'être dans la réalisation de l'être avant tout.
Aujourd'hui, donc, tu puises ta sérénité dans la nature et tu dis que tous nos maux, M-A-U-X, actuels sont liés à notre manque de connexion à la nature. Comment on en est venu à perdre cette connexion à la Terre?
Je dirais le pouvoir, le confort et la facilité. Petit à petit, on est rentré dans une société de consommation. Et on peut regarder, hein, tu regardes à l'extérieur, on consomme rapide, facile, confortable, hein. Une climatisation, on va mettre ça parce que c'est confortable. Alors, il y a des ours qui meurent à l'autre bout de la planète, il y a les glaciers qui fondent, mais on s'en fout, on est confortable. Hein? On est en train, quelque part, de scier la branche sur laquelle on est confortablement assis, mais on s'en fout, on est confortable. Et c'est l'aberration de l'être humain. Tu vois, on en est venu là. On consomme rapide. On a des modes de comportement et des modes de consommation qui sont en excès et qui sont futiles, superficiels et en surface. Aujourd'hui, c'est temps de revenir à des vraies valeurs. Parce que si on continue à consommer de cette manière, pour notre petit confort, tu vois, pour avoir cette facilité de tendre la main et d'avoir tout ce qu'on veut, eh bien, on va vers une extinction certaine de diverses espèces. Et je dis que là, aujourd'hui, il faut que l'être humain puisse se ressaisir. Je prends l'exemple de quand on mange, on a la facilité de manger tous les jours. Et en plus, on choisit ce qu'on mange. Je suis allé dans des pays où j'ai côtoyé la pauvreté, où les gens n'ont pas à manger tous les jours. Et ils ne choisissent pas ce qu'ils mangent. Ils sont en quête permanente de trouver quelque chose à manger. Et quelquefois, pendant plus de jours, ils ne trouvent pas à manger. Nous, on a ce confort et cette facilité, et on en use à outrance. Au lieu d'en user avec raison, on en use à outrance. Et on est en train de détruire tout le beau, tout le merveilleux, juste par égoïsme, par égocentrisme, pour le petit confort de chacun. Et à côté de ça, il y a diverses espèces qui disparaissent chaque jour dans le monde des espèces animales, mais aussi des êtres humains qui disparaissent juste par les modes de consommation et de comportement de l'être humain moderne. Et ça, ça doit changer, absolument.
Et comment on pourrait les changer ?
En changeant chacun nos modes de comportement et de consommation. Si je prends l'exemple du fait que on a tendance à critiquer les industriels, on critique l'industrie, on les montre du doigt en tant que pollueurs, on critique les politiciens, on critique des tas de choses, c'est facile la critique. Il est facile de critiquer, mais il est difficile de changer. On continue à critiquer, mais on consomme toujours de la même manière. Alors ça sert à quoi de critiquer les industriels, la pollution, les produits chimiques, si, paradoxalement, on continue à consommer tout ce qu'on critique? Je trouve que c'est une aberration totale. Et à un moment donné, il faut que l'être humain devienne responsable. On ne peut pas uniquement critiquer parce que c'est la facilité de critiquer et donner la responsabilité à l'autre, tout en continuant à consommer de la même manière et à se comporter de la même manière. Aujourd'hui, je pense que chacun doit être responsable et arrêter de critiquer, et plutôt que de critiquer, d'arrêter de consommer ce que l'on critique, d'arrêter d'avoir ces modes de comportement et de consommation si on veut vraiment que ça change. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Je pense que c'est une facilité de critiquer, c'est un peu de l'hypocrisie même, que de critiquer tout en continuant à consommer de la même manière. C'est une forme d'hypocrisie. Aujourd'hui, chacun doit être responsable. Et c'est tellement important.
Pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, quel conseil tu pourrais leur donner ? Un conseil de vie générale ?
Oh, j'aurais des milliers de conseils à leur donner. Mais déjà, la première chose, c'est de faire attention aux modes de consommation et de comportement. Parce que la société inculque la consommation, la rapidité de consommation, la facilité. On est dans une société de consommation et en plus des choses qui sont tout ce qu'on consomme devient à une obsolescence en fait. Et aujourd'hui, j'invite chacun à réfléchir à ça. Je prends l'exemple tout simple, justement pour les générations, un téléphone portable. Hein? Alors il faut savoir une chose, c'est qu'on a des téléphones portables et au bout de 6 mois, il y a le suivant qui arrive avec plus de capacité de mémoire, plus de rapidité de communication, plus de gigas, plus de pixels, plus de ceci et de cela. Et on veut le prochain pour faire comme les amis, comme les copains. Il faut savoir que les téléphones sont fabriqués en majeure partie à cause de l'esclavage des enfants. Il faut le savoir. La principale matière du téléphone portable, c'est le cobalt. Et il y a des enfants encore aujourd'hui de 8 ans, 10 ans, qui sont employés comme des esclaves à aller dans des mines à plus de 100 mètres de profondeur pour extraire le cobalt qui va servir à ces phénomènes de mode là, les téléphones. Ces enfants, quelquefois pendant plusieurs jours, ils n'ont pas à manger. On leur donne à manger quand on a envie. Et ces enfants, il y en a certains qui meurent au fond des mines parce que il n'y a pas assez d'air, parce que c'est pollué, parce qu'ils respirent du cobalt, de la poussière.
Des éboulements aussi.
Et il y a des éboulements, donc ils meurent de ça aussi. Ils ont 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans maximum, et on les exploite juste pour que les jeunes modernes puissent avoir un joli téléphone, qui téléphone bien, qui fait de belles photos. Mais il y a des morts derrière ça, et des enfants. Et ça, c'est inadmissible. Je dis que moi, le téléphone, on l'a. Tant qu'il n'est pas cassé, tant qu'il fonctionne, il n'y a pas de raison de le changer. Toutes ces petites choses, ces petits exemples, c'est incroyable l'impact que chacun peut avoir sur la planète, sur l'humanité, sur tous les règnes. On a tous un impact là-dessus. Mais beaucoup n'en sont pas conscients. Alors soit on choisit de continuer ces phénomènes de mode, là où on va changer de téléphone tous les 6 mois ou de vêtements tous les 6 mois parce que ça change de mode, parce que là aussi dans les vêtements il y a de l'esclavage aussi. Soit on comprend qu'il faut arrêter de cautionner ces systèmes-là, arrêter de cautionner ce mode de consommation qui détruit l'humanité, qui détruit la Terre. Et dans ce cas-là, on se rend responsable, on devient sage. Et on prend l'essentiel, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et je dirais, voilà, ça commence déjà par là.
Merci de souligner ça, c'est tellement important.
Mm-hmm.
Puis ça pourra peut-être faire réfléchir quelques-uns pour le prochain Black Friday.
Je l'espère.
Écoute, Conrad, on est déjà à 27 minutes, donc on va arrêter cette première partie. Et mm-hmm. Je te retrouve de suite pour les prochains conseils.
Avec plaisir.
Que tu voudrais donner aux jeunes. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.